L'heure pour vous de retrouver Anne-Laure Jumet pour le journal. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. La moitié des jeunes enfants dans le monde souffrent de carences alimentaires et l'obésité touche un tiers des jeunes enfants. Rapport publié ce matin par l'UNICEF, l'agence de l'ONU pour la protection de l'enfance. Une étude d'une telle ampleur n'avait pas été réalisée depuis 20 ans. Nous appelons au début de ce journal notre correspondant à Genève où se trouve le siège des Nations Unies.
Dans votre journal également, toujours beaucoup d'incertitudes autour du Brexit. À l'avant-veille d'un Conseil européen décisif, le négociateur en charge du dossier, Michel Barnier, estime encore possible la conclusion d'un accord, même s'il juge insuffisante les dernières propositions britanniques pour sortir de l'impasse. Il fixe à ce soir la date limite pour trouver un accord. Angélique Bouin nous appellera de Bruxelles.
En France, ouverture ce matin du procès des jeunes qui ont jeté il y a 3 ans des cocktails Molotov sur des policiers à Viry-Châtillon dans l'Essonne. Un procès devant la cour d'assises spéciale des mineurs à Évry qui se tiendra à huis clos. Les 13 accusés risquent la prison à perpétuité. Récit à suivre de Vianney Smiarovski.
Autre titre développé dans votre journal, Anne-Laure Jumet, le voile de la discorde et cette fracture entre le ministre de l'éducation et une partie du gouvernement et de la majorité sur la question du port du voile. Le ministre de l'éducation, Jean-Michel Blanquer, réclame des sanctions à l'encontre du député Aurélien Taché qui a comparé ses propos à ceux d'un élu du Rassemblement National. Une affaire qui embarrasse le parti présidentiel, nous dira Pierre Neveu.
Et puis Cambercy veut de nouveau baisser les impôts pesant sur les entreprises. Dans le collimateur, ce qu'on appelle les impôts de production indépendants des bénéfices et qui représentent une part 7 fois plus élevée qu'en Allemagne. On en parlera avec notre invitée, la secrétaire d'État en charge de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Au lendemain de la remise du Nobel d'économie à la française Esther Duflo, co-lauréate, ils sont 3. On va revoir avec notre invité les quelques grands concepts clés de l'économie d'aujourd'hui encore. Revoir avec Gérard Mordillat les lois du capital. Sont-elles obsolètes? C'est la question que nous lui poserons. Il est le réalisateur, co-réalisateur d'une série documentaire de 6 diffusée à partir de ce soir sur Arte, qui revient sur les notions clés de travail, de salaire et de profit.
À 48 heures d'un sommet européen jugé crucial pour le Brexit, les ministres des Affaires européennes sont réunis à Luxembourg aujourd'hui. Sur place également Michel Barnier, le négociateur en chef. En direct avec nous dans ce journal, Angélique Bouin, correspondante auprès de l'Union européenne. Bonjour Angélique.
Bonjour.
Et un accord de divorce pourrait être trouvé dans les prochains jours, mais à certaines conditions.
Angélique, oui, effectivement. Et l'heure tourne. Ces négociations de dernière minute auxquelles l'Union européenne nous a habitués sont constructives. Ça, on l'a bien compris. Les Britanniques ont renoncé à certaines de leurs lignes rouges, mais un accord n'est pas encore finalisé. Hein. C'est ce qu'a indiqué clairement à Luxembourg ce matin le négociateur Michel Barnier.
Même si obtenir un accord sera difficile et de plus en plus difficile, c'est encore possible cette semaine. Évidemment, tout accord doit convenir à tout le monde. Et laissez-moi ajouter qu'il est grand temps de coucher par écrit les bonnes intentions dans un texte juridique.
Une précision de taille, hein, car la clé de ces négociations réside en fait dans la volonté réelle des Britanniques de trouver une porte de sortie, ce qui a été promis verbalement. Pour éviter par exemple des contrôles douaniers sur l'île d'Irlande, néfaste pour la paix, sera-t-il accepté par écrit avec les inévitables garanties exigées par les 27 et réciproquement? Eh bien à ce stade, les engagements sont encore insuffisants, a expliqué ce matin Michel Barnier aux représentants des 27 États membres. Le chemin est très étroit, dit-il, et il faudrait donc un accord précis ce soir au plus tard pour pouvoir le représenter demain en vue d'une adoption par les chefs d'État et de gouvernement jeudi. L'objectif, c'est d'éviter que la négociation ne se poursuive lors du sommet européen. Personne n'y tient du côté des Européens. Alors en cas d'échec, que se passera-t-il? Eh bien, soit les discussions continuent et un autre sommet d'ici la fin du mois est nécessaire, soit il y a constat d'échec. Les Européens auraient alors la lourde tâche de décider ou non d'un éventuel nouveau report, à condition qu'il soit demandé par Londres. Report qui ne serait acceptable pour la France qu'en cas de nouvelles élections ou de nouveaux référendums, a indiqué la ministre française des Affaires européennes, Amélie de Montchalin.
Merci Angélique Bouin. J'ajoute que Boris Johnson vient de s'entretenir avec Emmanuel Macron. Selon l'Élysée, le Premier ministre britannique a raison de parler d'un élan positif. Mais comme vous le disiez, une possibilité d'accord n'est pas encore un accord, dit l'Élysée. C'est donc un rapport qui choque. Un jeune enfant sur 3 ne reçoit pas l'alimentation dont il a besoin pour bien grandir. Constat dressé aujourd'hui par l'UNICEF qui a passé au crible les pratiques alimentaires des enfants de moins de 5 ans dans le monde entier. Un bilan d'une telle importance n'avait pas été réalisé depuis 20 ans par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Obésité, carence alimentaire, les mots sont nombreux. Bonjour Jérémy Lanche.
Bonjour.
Correspondant de Radio France à Genève, où se trouve le siège des Nations Unies. Alors, contrairement aux idées reçues, on apprend aussi dans ce rapport que l'obésité ne concerne pas que les pays riches.
Oui, entre 2000 et 2016, la proportion d'enfants qui souffrent de surpoids a été multipliée par deux. Et si on recule dans le temps, les chiffres sont encore plus vertigineux. Entre 1975 et 2016, le nombre d'enfants obèses a été multiplié par 10. Pour l'Afrique, c'est un peu la double peine, puisque le continent est concerné et par la dénutrition et aussi par l'obésité. C'est ce que dit France Béguin, les spécialistes de la nutrition à l'UNICEF.
C'est des chiffres qu'on ne voyait pas il y a 15-20 ans. On s'était surtout limité avant aux pays qu'on dit à revenus plus élevés. Mais maintenant, on voit aussi ce problème dans les pays qui sont à revenus faibles et modérés. Les pays d'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, entre autres, où on a vu une augmentation importante du surpoids chez les jeunes enfants. Ce qu'il faut peut-être aussi souligner, c'est que des enfants qui ont des problèmes de dénutrition quand ils sont petits, s'ils sont exposés à un environnement où on offre des aliments qui sont malsains, ils sont plus à risque, en fait, de développer des problèmes de surpoids à long terme.
L'ennemi public numéro un dans la guerre contre l'obésité, c'est bien sûr le sucre. 42% des ados dans les pays à revenus faibles et intermédiaires consomment des sodas ou des jus de fruits au moins une fois par jour. Dans les pays à revenus élevés, c'est même 62%. L'UNICEF recommande de taxer plus souvent les produits trop sucrés. Mais même si l'obésité a explosé et que la faim a globalement reculé dans le monde, la sous-alimentation reste le problème numéro un des pays en voie de développement. 149 millions d'enfants dans le monde sont ainsi trop petits pour leur âge et 50 millions trop maigres par rapport à leur taille.
Merci Jérémy Lahonche en direct de Genève pour France Culture. L'offensive turque dans le nord de la Syrie se poursuivra jusqu'à ce que ses objectifs soient atteints. Déclaration ce matin du président turc Erdogan. Alors que la Chine appelle désormais la Turquie à stopper son intervention militaire en Syrie, disant redouter que cette action ne se traduise par l'évasion de terroristes. On a appris aussi aujourd'hui de sources kurdes que l'aide humanitaire dans le nord-est était totalement à l'arrêt. Alors que les troupes de Bachar el-Assad aident désormais les combattants kurdes. Situation tendue de part et d'autre de cette frontière où vivent des familles kurdes, pour la plupart souvent coupées en deux et meurtries par des années de conflits. C'est le cas dans ce village côté turc où s'est rendu notre envoyé spécial Mathieu Mondoloni.
Razal a 15 ans, toujours ado et pas encore adulte, un âge frontière comme celle qu'elle regarde depuis le toit de sa maison. De l'autre côté des champs de maïs, c'est le Kurdistan syrien et la guerre qui s'y joue. Moi je n'ai pas peur pour nous, dit-elle, j'ai peur pour les enfants qui meurent là-bas. Parmi eux, ses cousins qu'elle n'a jamais rencontrés, mais dont son père Ali lui a souvent parlé.
Avant on était unis, mais un jour ils ont décidé que la ligne de chemin de fer était une frontière entre les deux pays. Et plus tard, ils ont posé des mines tout le long, la moitié de notre famille est restée là-bas et nous de ce côté, chacun sur sa terre.
Il dit penser à eux pris sous les bombardements de l'armée d'Erdogan et s'inquiète de l'accord conclu entre les YPG kurdes et le régime syrien.
Que ce soit la Turquie ou le régime de Bachar el-Assad, ça ne change rien. L'un comme l'autre, ils sont contre nous. Un jour, il y aura un État kurde. Alors notre drapeau flottera dans le ciel. Nous, on ne le verra peut-être pas. Mais nos enfants, j'espère que si.
Alice détourne, il ne veut pas que sa fille le voie pleurer. J'espère qu'un jour, on pourra le voir, ce pays. Ce serait bien, dit-elle, avec papa, avec maman, tous ensemble.
Voilà pour ce reportage de Mathieu Mondoloni, réalisé avec les moyens techniques de Marc Garven. En Russie, nouvelle vague de perquisitions contre l'organisation d'Alexei Navalny, opposant numéro 1 à Vladimir Poutine. Des domiciles d'employés, des bureaux de l'organisation sont visés dans 30 régions du pays. C'est la troisième opération du genre en quelques semaines, dénoncée par l'intéressé sur le réseau social Twitter. L'affaire avait provoqué une onde de choc au sein de la police. Il y a 3 ans, à Viry-Châtillon, dans l'Essonne, des jeunes avaient grièvement blessé des policiers en jetant des cocktails Molotov dans leur voiture. Le procès de ces 13 jeunes s'est ouvert ce matin à Évry, devant la cour d'assises spéciale pour mineurs. On vous retrouve sur place, Vianney Smiarovski, un procès qui, on l'a appris dans la matinée, se tiendra à huis clos.
Le procès de Viry-Châtillon aura donc lieu à huis clos parce que 3 des accusés étaient mineurs au moment des faits. Ils sont donc 13 au total à être accusés, mais l'enquête elle a montré que 19 personnes étaient présentes le jour des faits. Les suspects avaient entre 16 et 21 ans au moment de l'agression, une bande de copains d'enfance qui risque la perpétuité. Ce matin, ils sont apparus plutôt calmes et disciplinés dans le box, une attitude qui tranche avec la violence qu'on leur reproche. Le samedi 8 octobre 2016, ils sont soupçonnés d'avoir attaqué, cagoulé et ganté à coups de pierre et de cocktails Molotov 2 véhicules de police. police et 4 fonctionnaires en surveillance à un carrefour juste en face du quartier sensible de la Grande Borne, là où les vols à la portière sont fréquents, là où les 2 week-ends qui ont précédé l'attaque, une caméra de vidéosurveillance a été détruite, là où 2 policiers ont pris feu. L'un d'eux a des brûlures sur 25% de son corps. Il a été placé dans un coma artificiel. Lui n'avait pas réussi à sortir de la voiture sérigraphiée en flammes. Les 4 policiers parlent d'une violence inouïe. Ils sont convaincus qu'il y avait une volonté de tuer, ce que conteste la défense, pour qui les accusés sont, je cite, une bande de petits cons qui voulaient en découdre et qui n'avaient pas conscience de la gravité de leurs gestes. Ce procès s'ouvre aussi dans un contexte particulier. Le dossier est fragile, selon un avocat de la défense. Les enquêteurs ont fait face, eux, à la loi du silence. La plupart des accusés contestent leur participation. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, lui avait parlé d'un acte de guerre. Cette attaque avait aussi provoqué une vague de contestation inédite dans les rangs de la police, en dehors de tout syndicat et dans tout le pays.
Et le procès doit durer jusqu'au 6 décembre. Revenons maintenant sur le verdict du procès de l'attentat avorté contre la cathédrale de Notre-Dame. Un verdict prononcé tard dans la soirée après plus de 10 heures de délibéré, des peines allant jusqu'à 30 ans de réclusion pour les 4 femmes dans le box des accusés. Antoine Marette, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi ce procès pour France Culture, procès qui était le premier à examiner le cas de djihadistes au féminin. Qu'est-ce qu'on peut en retenir ?
Eh bien, déjà à propos du verdict, 10 heures de délibéré, cela veut dire qu'il y a sans doute eu des hésitations. Un verdict sévère, 25 à 30 ans pour les plus lourdes peines, si l'on exclut le cas particulier de Rachid Kassim, sans doute mort en Irak. C'est donc un verdict conforme aux réquisitions, sauf en ce qui concerne la période de sûreté des 2/3. Là, il n'y en a pas. Il y a donc une période de sûreté de la moitié qui s'applique automatiquement. Ça veut dire que, par exemple, Ornella Gilligman, qui a déjà effectué 3 ans de prison, pourrait demander une libération dans 9 ans et Inès Madani dans 12 ans. C'est un petit geste de la Cour d'assises spéciale qui signifie « Vous êtes encore jeune, on vous laisse la possibilité de construire votre vie malgré les erreurs que vous avez commises ». Les 2 principales accusées ont semblé battre leur coulpe hier matin avant la délibération. « J'ai eu le pire des comportements », a déclaré Inès Madani. « Je n'avais que des projets de mort à l'époque. Aujourd'hui, j'ai des projets de vie », a-t-elle poursuivi. « Je demande pardon et je demanderai pardon toute ma vie à tous ceux qui ont été victimes du terrorisme », a dit Ornella Gilligman, confiant d'une voix émue sa honte. Mais les 2 jeunes femmes, pendant les 3 semaines d'audience, n'ont eu de cesse de se rejeter la faute sur l'origine du passage à l'acte, ce qui a sans doute fait douter les magistrats professionnels de la sincérité de leur repentir.
Merci pour ce récit, Antoine Marette. Le débat sur le port du voile agite la majorité. Tout est parti de l'interpellation d'un élu du Rassemblement national, exigeant d'une mère qu'elle retire son voile lors d'une séance du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Cette maman accompagnait des scolaires. Interrogé sur le sujet, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a condamné ses propos, tout en jugeant sur le fond que le voile en soi n'était pas souhaitable dans notre société. Une déclaration qui ne passe pas chez certains membres de la majorité. Le député de La République En Marche, Aurélien Taché, s'est ainsi montré très critique dans un entretien accordé à l'hebdomadaire Le Point. Riposte de Jean-Michel Blanquer qui réclame des sanctions à l'encontre de ce parlementaire de l'aile gauche de la majorité. En tout cas, ce dossier empoisonne le parti présidentiel, Pierre Neveu.
Et le ton est monté d'un cran hier soir lors du comité exécutif de La République En Marche. Il a même tourné à l'orage. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, n'a pas apprécié la sortie du député macroniste Aurélien Taché quelques instants plus tôt. Vous l'avez dit sur le site du Point. Le député du Val d'Oise déclarant en effet que les propos du ministre amenaient de la confusion lorsqu'il explique que le port du voile n'est pas souhaitable dans notre société, tout en reconnaissant que la loi autorise le port du voile pour les accompagnatrices scolaires. Ce en même temps du ministre est donc difficilement négociable pour Aurélien Taché, qui en appelle lui au strict respect de la loi, interdiction du voile pour les agents publics et tolérance pour les accompagnatrices scolaires. Face à la confusion naissante, le patron de La République En Marche, Stanislas Guérini, tente de calmer le jeu en saisissant la cellule de médiation du parti pour une grande explication Blanquer-Taché. Mais cette question divise au sein même du gouvernement, puisque la porte-parole, Sibeth Ndiaye, défend la présence des femmes voilées lors des sorties scolaires au nom d'une meilleure intégration. On voit donc des lignes de fracture se dessiner au sein même du gouvernement et des élus de La République En Marche, comme lors de l'examen du projet de loi Asile-Immigration, lorsque des frondeurs s'étaient exprimés au sein même de la majorité présidentielle. Et dans ce débat sensible apparaît à présent la voix d'une professeure de lettres, Brigitte Macron, qui en marge d'une visite dans un collège parisien rappelait hier la nécessaire neutralité des professeurs tout en approuvant la position du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.
En bref, c'est le coup d'envoi aujourd'hui de la vaccination contre la grippe avec une nouveauté cette année, la possibilité de se faire vacciner en pharmacie dans toute la France. Cap sur le plein emploi à horizon 2025. Plusieurs ministres ont présenté ce matin à Bercy les grandes orientations du pacte productif qui entend conduire la France vers cet objectif ambitieux. Un cap fixé par Emmanuel Macron en avril dernier pour répondre à la crise des gilets jaunes. Alors, quelles sont les solutions pour doper notre industrie? Invitée de ce journal, la secrétaire d'État à l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, que nous retrouvons en direct de Bercy. Bonjour.
Bonjour.
Alors la parade, selon vous, c'est de baisser une nouvelle fois les impôts des entreprises. C'est l'une des parades, en tout cas, que vous fixez ce matin. Il y a déjà eu le CICE, le Crédit Impôt Compétitivité Emploi, transformé récemment en allègement de charges. Ça n'est pas suffisant pour baisser le coût du travail, baisser les charges des entreprises?
En réalité, le CICE a été transformé. Il n'a pas été baissé, comme vous l'indiquez. Il est en revanche consolidé et immédiatement relié au coût de la masse salariale. Et c'est pour ça que c'est intelligent, parce que c'est relié au coût du salarié, là où avant, on distribuait un crédit d'impôt qui, finalement, perdait sa finalité de permettre de plus facilement embaucher. Lorsqu'on parle des impôts de production, on parle d'impôts qui ont plus que doublé ces dernières années. On parle d'impôts qui représentent 70 milliards d'euros, soit 3,5% du PIB, là où il n'en représente 7 fois moins en Allemagne. Donc vous imaginez bien que le niveau de ces impôts qui interviennent avant même que l'entreprise soit en situation de gagner de l'argent, puisque ce sont des impôts sur le chiffre d'affaires, ce sont des impôts qui ne tiennent pas compte de la rentabilité de l'entreprise, posent problème. Et ils posent problème sur deux sujets qui sont majeurs pour nous. C'est d'une part l'emploi, puisque ce sont des freins au recrutement, et d'autre part l'investissement. Et comme vous le savez, l'investissement aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre pour pouvoir, au fond, améliorer, renforcer notre position en termes d'innovation et donc ne pas perdre des marchés comme nous en avons malheureusement perdu dans certains secteurs d'activité.
Donc c'est la prochaine bataille, baisser ces impôts de production qui représentent 77 milliards d'euros. Quel est le calendrier, puisque effectivement en face il y a des collectivités locales qui les perçoivent, donc il faut les convaincre de perdre une recette, et puis il y a aussi l'État qui perçoit notamment la C3S, ces 4 milliards d'euros. Comment on fait pour avoir des économies en face ou des solutions en face de ces potentielles pertes de recettes?
C'est tout l'enjeu des discussions que nous ouvrons. Je veux rappeler que le pacte productif, ce n'est pas seulement une question d'impôts. Le pacte productif, c'est aussi des mesures et une réflexion sur comment transformer notre façon de produire et faire en sorte d'accompagner la transition écologique et énergétique. C'est un point majeur. C'est également comment innover plus et renforcer les moyens alloués à la recherche et au développement, non seulement fondamental, mais également d'application. C'est tout le travail que nous faisons sur les compétences pour faire en sorte que nous soyons capables de recruter les 80 000 postes aujourd'hui qui sont vacants dans le numérique, les 50 000 postes qui sont vacants dans l'industrie.
Pour c'est une stratégie globale.
Deux exemples-là.
Bien sûr.
C'est une stratégie
mais
globale.
Mais pour les impôts de production,
il faudrait pas la limiter aux impôts de production.
En effet, mais sur les on a besoin de visibilité aussi. Les entreprises ont besoin de visibilité. Quel calendrier?
Tout à fait. Et c'est pour ça que nous travaillons à leur côté et que dans les prochaines semaines, nous allons tracer cette trajectoire. Nous l'avions fait sur l'impôt sur les sociétés. Vous savez qu'il y a une trajectoire qui permet de baisser l'impôt sur les sociétés jusqu'à 25%, c'est-à-dire la moyenne européenne. On va pas plus loin. À 2022, c'est le même exercice que nous souhaitons faire en utilisant les marges de manœuvre budgétaires à notre disposition. Et l'un des enjeux peut-être, c'est de conditionner cette baisse de trajectoire aussi. C'est une réflexion qui est arrivée sur la table de la part des entreprises à des investissements qui se feraient justement dans la transition écologique et dans la transition numérique, parce que ce sont des investissements qui n'apportent pas immédiatement des bénéfices à l'entreprise, mais qui sont nécessaires pour lutter contre le changement climatique.
Donc si je vous suis bien, ce serait des baisses d'impôts à condition qu'il y ait investissement dans la transition énergétique.
C'est un des sujets qui est aujourd'hui soumis à la concertation. Vous savez que la méthode du pacte productif, c'est une méthode de concertation avec les entreprises, avec les représentants des salariés, avec les associations environnementales et avec les élus locaux.
Donc on peut imaginer que dans le budget 2021, donc celui de l'automne prochain, on ait une trajectoire pour la baisse de ces impôts de production.
c'est tout à fait l'objectif que nous souhaitons, nous nous fixons.
Agnès Pannier-Runacher, le dossier qui vous préoccupe également en ce moment et qui est brûlant, on en parlait dans le journal, c'est celui du Brexit. La date du 31 octobre approche à grands pas avec un risque de no deal, ce qui implique que nos entreprises qui exportent au Royaume-Uni ou qui utilisent des composants fabriqués outre-Manche vont devoir faire face au rétablissement des frontières douanières. Encore beaucoup de TPE, PME sont dans le flou. Vous craignez qu'elles ne soient pas assez préparées ?
Nous, ce que nous leur demandons, c'est de se connecter sur brexit.gouv.fr et de faire leur autodiagnostic. Nous sommes en contact avec un grand nombre de PME que nous avons contactées sur la base des informations douanières dont nous disposons, c'est-à-dire celles dont nous savons qu'elles exportent effectivement au Royaume-Uni. Simplement, il faut que chaque entreprise se saisisse de ce sujet. Nous avons recruté beaucoup de douaniers. Nous avons isolé des surfaces pour plus facilement et plus rapidement traiter les problèmes de douane. Nous avons mis en place une frontière dématérialisée. Pour cela, il faut s'inscrire. Donc ça aussi, c'est un appel aux TPE, PME de s'inscrire sur le site des douanes pour pouvoir dématérialiser le franchissement de la frontière et donc le camion ne serait pas arrêté si elles le font avec anticipation. Et bien sûr, les accompagner aussi dans les mesures de premier niveau que prennent l'ensemble des entreprises qui sont concernées, tout simplement constituer un peu de stock pour voir venir une éventuelle échéance au 1er novembre de Brexit sans deal.
On pourrait imaginer des aides, des avances de trésorerie comme ce que vous avez fait pour contrer l'impact économique du mouvement des Gilets jaunes ?
Ça, c'est dans un deuxième temps. Vous avez en fait les premiers jours où la question principale, ça sera le franchissement de la frontière et les conditions de franchissement de cette frontière, dans les deux sens d'ailleurs. Nous avons besoin également du Royaume-Uni pour que ça se passe bien dans le sens France vers Royaume-Uni. Deuxième élément, c'est l'impact que ce Brexit peut avoir à court terme sur certaines entreprises. L'Union européenne a préparé des mesures. Nous serons en appui de ces mesures, en complément. Et effectivement, on peut envisager dans ce cadre-là de réactiver ce levier de facilitation de la trésorerie des PME les plus touchées en faisant glisser leurs échéances fiscales et sociales. Et puis le troisième élément, c'est de rebâtir très vite une relation future, parce que un Brexit sans deal, ce n'est pas la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est quel est le traité que nous allons conclure de libre-échange avec le Royaume-Uni. Nous avons 45 ans, 46 ans de vie commune. Nous avons su conclure des traités avec la Suisse, avec la Norvège, qui se passe très bien. Nous n'avons aucune raison, compte tenu de notre passé avec le Royaume-Uni, de ne pas être capable de conclure un traité entre l'Union européenne et le Royaume-Uni qui soit de grande qualité et qui facilite, je dirais, un retour à la normale ou presque à la normale.
Agnès Pannier-Runacher, on parlait d'industrie tout à l'heure. Deux sites de General Electric sont bloqués depuis une semaine, notamment à Belfort. Les syndicats protestent contre le plan social annoncé en mai dernier par la direction. Près de 1050 postes supprimés en France, 792 sur le site de Belfort. Il y a une réunion à Bercy cet après-midi. Bruno Le Maire reçoit la direction et les représentants du personnel. Vous demandez toujours à General Electric de revoir à la baisse son plan social, mais avez-vous vraiment des moyens de pression face aux géants américains ?
Écoutez, c'est un travail de fourmi que nous faisons, qui n'est pas spectaculaire et sur lequel nous ne, je dirais, en provoquant pas les médias. Néanmoins, nous avons obtenu des évolutions des positions de la part de GE, mais c'est un travail qui doit être mené à son terme. Donc, je ne ferai aucun commentaire sur ce sujet-là parce que pour la réussite de l'action que nous menons, il est important que nous avancions au premier chef avec les représentants des salariés et les représentants de GE.
Merci Agnès Pannier-Runacher d'avoir été en direct avec nous dans ce journal. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État en charge de l'industrie. Une interview rendue possible grâce aux moyens techniques de Georges Thau. Avant de conclure ce journal, un mot du Booker Prize, le prestigieux prix littéraire britannique attribué hier soir aux écrivaines canadiennes Margaret Atwood et à l'écrivaine anglo-nigériane Bernardine Evaristo. Margaret Atwood pour Les Testaments et Bernadine Evaristo pour Girl, Woman et Other, toutes deux consacrées meilleures œuvres de fiction en anglais de l'année. Un mot de météo pour conclure. Pour cet après-midi, orageux et pluvieux sur une large partie du pays en cours de soirée. Une nouvelle dégradation pluvieuse est attendue sur la pointe bretonne. Température entre 15 et 22 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. À 18h, vous avez rendez-vous pour le prochain journal de la rédaction avec Aurélie Kiefer. Et tout de suite, la grande table des idées.